et la vipère. Paris, printemps 1921. Montmartre s'effiloche en volute nocturne.
Vêtu d'un de ces éternels costumes anthracite rayés de clair qui affinaient sa silhouette au point de le faire paraître presque frêle, Spoonrattle entra vivement dans le salon souterrain de son repère parisien. Il frémissait d'impatience. Ses informations capitales, il les voulait. Son indique était déjà là. Spoonrattle fut saisi par cette vision. Elle enflamma son regard bleu glacial. Son monocle échappa de son orbite droite aux sourcils toujours froncés. Son fume-cigarette d'ivoire et d'ambre vint pendre mollement au bout de sa main gauche, vaincue, tandis qu'une raideur inappropriée lui titillait son reste d'humanité. Ils n'étaient pas nombreux, et encore moins nombreuses, les téméraires s'aventurant dans l'antre du maléfique britannique. Il ambitionnait de devenir un Napoléon du mal sur toute l'Europe occulte. Pour ce faire, Spoonrattle avait commencé par se forger une réputation et un sacré magot dans le crime organisé, dans l'opium en particulier. Son repère parisien se tapissait sous une classieuse fumerie de Montmartre, fréquentée par le haut du panier toxicomane de la capitale. L'odeur doucereuse de la drogue venimeuse s'insinuait jusque-là. Là-haut, la fumée des dieux se nourrissait de la chair et des neurones des toxicos argentés, dévorant leurs rêves. Devant les yeux froids de Spoonrattle, ce n'était ni un rêve, ni un cauchemar, mais le fantasme flamboyant d'une rousse généreuse. Elle lui tournait le dos. Son déhanché négligé valorisait une rondeur postérieure à vous détourner de toutes vos vies antérieures. Son précieux sarong de soie émeraude se fendait haut. Il divulguait une cuisse galbée, un mollet athlétique. Autour des amandes de muscles s'effilaient deux tentacules violacées aux ventouses avides. Le tatouage remontait tout au long de la jambe et derrière la cuisse. La soie laissait imaginer où se situait la tête du céphalopode. Spoonrattle hésita à deviner où se lovait la bouche du kraken de chair et d'encre. Il préféra s'éclaircir les idées et se concentrer sur le plus important. Les informations. Le terrible truand de l'occulte inspira profondément. Malheureusement, la rousse fatale fumait de longues orientales de l'attaquer. Le parfum capiteux du tabac se mêla à celui de la femme, mélange d'agrumes et de gingembre, avec une touche d'un étrange musc. Il agit sur Spoonrattle comme un rail de phéromones. Son monocle pendait toujours, pathétique héros de la reddition de sa volonté sous le joug du désir. Troublé, il se racla la gorge. Elle se retourna, rajoutant au trouble du ruffian. Elle était grande, piquée de baguettes laquées de pourpre sur lesquelles s'enroulaient de fines tentacules d'ivoire. Son chignon régnait en couronne de tresses rousses. Insolent et coquin, ses yeux verts scintillaient autant que la soie de son sarong. Légèrement épaté, son nez court gratifiait son long visage d'une férocité léonine, dangereuse, malgré une bouche pulpeuse sur un menton carré que venait adoucir les rondeurs d'une poitrine généreuse, dévoilée par l'échancrure phallique de son décolleté. Elle toisa Spoonrattle avec une assurance qui le piqua. Il sentit la colère monter d'un coup, effaçant le désir plus efficacement que la prudence. Mais pour l'instant, il avait besoin de ce qu'elle savait. Elle sourit, légèrement alanguie. « Avez-vous mon argent, vipère noire ?»«
Ce sont les Britanniques qui me surnomment ainsi, pas les Français. »
Elle haussa les épaules, tira une longue taffe de sa cigarette orientale et souffla, charmeuse, dans un nuage capiteux. « Je ne suis pas Français, je suis Parisienne. » Spoonrattle haussa les épaules.
« On dit que tu as passé plus de temps au Moyen-Orient et en Extrême-Orient qu'en France. »
Vous savez ce qu'on dit aussi, à Paris ?
What ?
On est un con. D'agacement, Spoonrattle se gratifia d'une mimique de macaque bruxant des graines de tournesol entre ses mâchoires mesquines. Il renifla et...
So, mes informations ?
Larousse lui adressa son sourire le plus ravageur, passant d'une hanche sur l'autre, avançant du pas de la panthère avant la morsure fatale. Elle tendit son bras, gracieuse. « Mon petit cadeau ?» Un nouveau tic d'agacement biaisa le museau de fouine vicieuse de Spoon Rattle. Il contourna son grand bureau de chêne scellé au sol. Unique, ce meuble avait été fabriqué pour lui, selon ses plans, par un ébéniste exceptionnel, mort par accident, juste après le montage sur place. Sans quitter la volcanique balance des yeux, Spoon Rattle enfonça, dans un ordre que lui seul connaissait, plusieurs pièces du haut-relief qui ornaient une porte sans serrure. Elle condamnait l'accès des gros blocs de bois qui constituaient les pieds du bureau. La scène gothique représentait un hobereau vindicatif sur un bûcher, lynché par une foule de vilains grotesques. La porte se déverrouilla avec un claquement sec. Spoon Rattle sortit une clé tourmentée, accrochée par une chaîne à une poche de son gilet. Il ouvrit un tiroir haut. Il en sortit un pot de verre de la taille d'un gros poing, scellé à la cire rouge. Du cachet épais dépassait une espèce de ficelle goudronnée et des coins de papier huilé. Sur la cire épaisse, un sceau circulaire représentait une limace grasse et tachetée, entourée de runes repoussantes qui n'avaient jamais eu aucune signification dans notre monde. Il posa aussi quatre cylindres de l'épaisseur de trois doigts et de la longueur d'une main. Des cylindres d'or. À leurs deux extrémités était gravé un monogramme étrange. Un monocle dans un pentacle en étoile. Il était tracé par un serpent noir qui se mordait la queue. À chaque sommet aigu du pentacle s'inscrivait une rune semblable à celle du couvercle de cire. Spoon Rattle sourit en coin.
Saut.
La rousse incandescente dansa plus qu'elle ne marcha, posa une main sur son butin. Mais Spoon Rattle posa fermement la sienne dessus, imposant une poigne qu'on ne lui soupçonnait pas. S'engagea alors un duel de regards qui servit de décor à la confession de l'indic. Une fois qu'elle eut tout expliqué, le regard de Spoon Rattle scintillait de mille feux de concupiscence. Il savait maintenant qu'il allait enfin damer un pion important à ses ennemis de toujours, ces maudites vieilles têtes à long chapeau. Eux qui avaient osé le mépriser et qui avaient imprimé leur marque de feu dans sa chair. Il s'y voyait déjà. Les surprendre là où ils s'y attendaient le moins. Les humilier, les déposséder d'un trésor. Spoon Rattle n'en connaissait pas l'existence 10 minutes plus tôt, mais il le convoitait désormais âprement. Son indic voulut tirer vers elle son butin honteusement mérité. Mais la main nerveuse au long doigt de Spoon Rattle se referma sur la sienne en une étreinte d'araignée étouffant une proie trop téméraire. Il se fit charmeur comme un cobra.
« Je crois que tu n'as pas encore totalement mérité ton salaire, my darling. On m'a raconté que tu savais faire des prouesses pour le plaisir des hommes. »
La rouquine releva la tête jusqu'à le considérer par en dessus et elle rit avec une lascivité préméditée, taquine, appuyant d'un clin d'œil langoureux. « Je te l'ai déjà dit, Blackadder, on est un con. » La sentant à sa main, Spoon Rattle minauda.
« Tu sais, certains prétendent que je suis un démon à sang-froid, mais je sais être hot, very hot. Je suis une légende auprès de certaines courtisanes. »
Il relâcha son étreinte afin de faire le tour du bureau. Alerte comme l'anguille face à la vipère, la rousse rouée rafla les quatre barreaux d'or. Vivement, elle les fit disparaître dans une poche secrète à l'intérieur de son sarong. De son autre main, elle attrapa le mystérieux bocal. Mais le lord maléfique s'érigeait devant elle et la saisissait à la taille. Comme elle ne bronchait pas, il l'attira d'un violent coup de rein et la colla à lui.
« Allons, tu sais, j'en connais qui seraient ravis de se donner à moi pour rien. Je suis un homme puissant. »
Il chercha un mot, fit claquer sa langue.
« Si tu es really so talentueuse, je suis prêt à te donner 2 autres cylindres.
Ah » De sa main libre, elle lui attribua un coup sec et inattendu au plexus solaire. L'impact coupa succinctement le souffle à Spoon Rattle et l'obligea à relâcher son étreinte. Elle se dégagea et se recula, prête à partir. Le bras de Spoon Rattle frappa comme un naja en avant. mais il rata le visage de sa proie et se rattrapa à son poignet, libre. Sur une grimace d'une méchanceté dépitée, il cracha.
« Je suis un homme puissant, je te l'ai dit et... »
Il ne finit pas. Sans un regard pour l'objet et son contenu pourtant si précieux, Larousse se projeta haut le bocal contenant l'étrange mixture. Et elle asséna à Spoonrattle un violent coup de tête. Avant qu'il ait pu la lâcher, avec une grâce incommensurable et une vitesse improbable, elle le passa sous son bras, le frappa au crepeau plité. Les genoux du gandin cédèrent immédiatement. Elle rattrapa le bocal tandis que Spoonrattle s'effondrait. Elle écrasa sa si tentante poitrine sur le dos de Spoonrattle, compressant les poumons vidés par le choc au sol. Elle l'écrasa de tout son centre de gravité. Il gigotait mollement, sonnait, suffoquant, marmonnant des insultes, la bave aux lèvres. Elle posa le bocal sur le tapis à la longueur de son bras. Elle passa ce bras sous le cou nerveux de sa victime, pas plus consentante qu'elle ne l'avait été elle, juste quelques secondes auparavant. Elle lui murmura à l'oreille.
« Juste, homme puissant, pourquoi as-tu besoin de moi pour savoir ce que font ces deux vieux épouvantails trop visibles et trop prévisibles? Dis-moi, homme puissant. »
Mais sans attendre la réponse de Spoonrattle, elle resserra sa redoutable clé d'étranglement jusqu'à ce que l'anglais perfide perde connaissance. Puis, elle s'éclipsa comme elle était venue, avec élégance et grâce, flamme rousse sur une liane d'absinthe émeraude, au cœur de l'obscurité adoucie d'opium.
C'était Belle et la vipère. Un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit par Georges Fauveau et mis en son par Vincent Corlet, narré par Marie-Pauline Miralles. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.